One, two, three, ho!
Et t'arrives à transporter une ruche entière avec des abeilles dedans en vélo?
De temps en temps, ça m'arrive, ouais.
Elles sont pas affolées.
Est-ce que les abeilles aiment faire du vélo?
Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, l'émission qui donne envie de pédaler. Et aujourd'hui, ça sera une émission consacrée aux abeilles et au vélo, le lien qu'il y a entre les abeilles et le vélo. Et pour ce faire, on a un invité qui s'y connaît. J'ai envie de dire, comme il est dans le vélo et dans les abeilles, il en connaît un rayon. Je tente la blague, elle est un peu légère, mais il fallait la tenter. Comment ça va, Guillaume?
Ça va bien, super. En tout cas, merci de m'avoir invité cet après-midi.
Alors Guillaume, t'es apiculteur et tu fais tout ton travail à vélo, c'est ça?
Pour résumer, c'est à peu près ça, oui.
Bon. Et on a Kika, comment ça va aujourd'hui?
Ça va très bien, merci. Je suis contente d'être là avec vous.
Tu nous as ramené quoi comme chronique?
Alors moi, je vais plutôt parler recyclage de deux roues.
Ça sera le surprise. Miel, abeilles et vélo aujourd'hui. Guillaume, tu as un métier où on a du mal à voir où le vélo peut intervenir. Alors quand on est apiculteur, où est-ce qu'on peut mettre du vélo là? Dans quelle part de ton métier tu fais avec du vélo?
Presque tout en fait. En tout cas, tous mes déplacements, je les fais à vélo. Et puis, c'est même aussi possible d'extraire son miel à vélo. Bon là, j'ai pas d'image ou de vidéo à vous montrer, mais on peut aussi extraire justement le miel à vélo. Mais en fait, le vélo est d'abord une passion avant d'être un outil ou un moyen de me déplacer. Avant que je commence mes activités d'apiculteur, je me suis dit, ben voilà, comment est-ce que je peux améliorer mon empreinte environnementale pour faire ma passion, pour faire de l'apiculture. Et puis, ben, à la base, je suis consultant en environnement et puis je quantifie ou mesure les émissions de CO2 qui sont générées par nos activités, par tout plein de choses. Puis j'ai vu que quand je faisais l'apiculture, en fait, ce qui domine dans l'empreinte environnementale de l'apiculture, c'est ses déplacements. Parce que généralement, les gens se déplacent en voiture, ils ont beaucoup de matériel à transporter. Et un des seuls moyens qu'on a actuellement, qui est pratique, qu'on nous fait croire, qui est pratique, c'est la voiture. Mais en fait, y a un autre moyen de se déplacer et qui convient très bien, c'est le vélo. Et puis, un simple vélo, des fois, ne suffit pas. Là, avec ma femme, on a fait l'acquisition d'un vélo cargo, qui est un outil, je pense que ça doit être un de nos meilleurs investissements qu'on ait fait, parce qu'il substitue vraiment une voiture et il nous permet de faire plus ou moins toutes les activités du quotidien, que ça soit aller au rucher, mais que ça soit aussi faire ses courses, transporter les enfants, aller à la déchetterie et avoir un petit peu une part de liberté qui est bien plus grande que celle que nous offre la voiture.
Et à quoi il ressemble ton vélo justement pour faire ton boulot? T'as pas un vélo traditionnel, tu fais un vélo cargo, c'est quoi?
Ouais, alors un vélo cargo, donc c'est un vélo avec une caisse à l'avant. On en voit de plus en plus, ça se démocratise de plus en plus. C'est pratique, c'est très facile à manipuler. J'attelle même de temps en temps encore une charrette derrière mon cargo, donc ça me fait un volume de stockage à l'arrière où généralement je mets plutôt les enfants. Et puis à l'avant, on peut mettre justement ses courses, son matériel d'apiculteur ou d'apicultrice, etc., etc.
Moi, l'ayant vu passer plusieurs fois parce que j'habitais pas très loin à l'époque, c'est incroyable tout ce que tu peux mettre dessus. Puis avec les enfants aussi, donc c'est vraiment... Enfin, on pense souvent que la voiture, c'est plus simple. Ouais. Mais si on est organisé, ça va hyper bien avec des enfants, du matériel et tout ça. Enfin, souvent, les gens ne se rendent pas compte. Je pense qu'en fait, il suffit juste d'être équipé.
Ouais,
c'est aussi grand qu'un coffre, quoi.
Ouais. Et puis, je pense que c'était d'autant plus un défi parce que quand tu as une activité d'apiculteur ou d'apicultrice, tu transportes généralement beaucoup de choses. Il y a des grands
des
caisses et tout ça.
Ouais.
Et puis, c'est un petit peu un défi quand même que se dire, OK, je n'utilise pas de voiture et j'utilise un vélo. Alors, un vélo adapté, soit, mais un vélo et puis ça fait le job.
Et tu arrives à transporter une ruche entière avec des abeilles dedans en vélo?
De temps en temps, ça m'arrive, ouais.
Elles sont pas affolées.
Est-ce que les abeilles aiment du vélo?
Alors, c'est vrai que j'ai un rucher avec mes abeilles qui sont à Aubonne. C'est rare que j'ai des places. Par contre, ça peut arriver que certaines fois, on m'appelle pour me dire « Ah ben, Guillaume, j'ai des abeilles dans un arbre qui se trouve à côté de chez moi. » Et puis du coup, je prends une caisse, mon vélo, je mets la caisse dans le vélo, je vais jusqu'où se trouve l'essaim. Je mets l'essaim dans la ruche et puis je remonte avec mon vélo pour l'installer à mon rucher, si c'est nécessaire.
Excellent.
Voilà. Eh ben, on va continuer à parler de ton travail parce que j'ai des tonnes de questions, je trouve que c'est passionnant. Nous, on est entre amoureux du vélo, mais il y a Deluxe, notre copain Deluxe, qui fait du stand-up et qui rejoint l'émission, qui va avoir sa chronique régulière. Lui, c'est un haters. Lui, il aime pas le vélo. C'est Deluxe.
Alors, le patron m'a demandé de faire une chronique sur le vélo et de m'inspirer des commentaires des haters du vélo au cas où je n'avais pas d'idée. Les haters, vous savez, c'est cette catégorie de personnes qui, par définition, détestent. Bah franchement, j'avais pas besoin d'aller voir leurs commentaires parce que moi, le vélo, je déteste. Vous me direz pourquoi le patron demande à un hater de faire une chronique sur le vélo. On vous répondra que demander à un humoriste de faire une chronique de complaisance, c'est tout, sauf trop. J'aime pas le vélo. En hiver, j'ai froid. En été, j'ai chaud et je transpire. Si à cela, vous me demandez de porter un casque ridicule déjà qu'étant dégarni, j'ai une tête de plouc. J'ai beau avoir le sens de l'autodérision, j'évite d'avoir le sens de l'autoflagellation. La bien-pensance actuelle voudrait que tout le monde fasse du vélo. Mais mesdames et messieurs, faire du vélo ne rend ni plus sympathique, ni plus intelligent. Comme dans toutes les catégories de personnes, il y a, pardonnez-moi mon langage peu élégant, une belle brochette de connards. Et Dieu sait que les autres usagers de la route détestent le cycliste, qui grue le feu rouge, qui roule sur les trottoirs. Et du simple fait qu'il représente la partie faible, insulte les automobilistes au moindre faux pas. Ah, c'est sûr que faire du vélo, ça rend pas aimable. Pour se venger des cyclistes, il faudrait leur imposer l'écriture inclusive prônée ces temps-ci. Ainsi, la selle deviendrait le seau. Partout dans le monde, on aménage des pistes cyclables dignes des autoroutes 8 pistes à l'américaine. Ou comment donner le bâton pour se faire battre. Non mais c'est insupportable un cycliste. Dès que tu les touches, ils se retrouvent par terre. Ce sont les Neymar de la route, des simulateurs, je vous dis. Non franchement, j'avais mieux à faire que d'écrire une chronique sur le vélo à 6h du mat un mercredi d'hiver. Seule consolation pour moi, imaginez ces milliers d'adeptes de la petite reine et pensez au fait qu'ils vont devoir enfourcher leur vélo par une température de moins 3 degrés. Passer à côté d'eux et voir leur museau allongé jusqu'au sol de tristesse dans cette nuit peste. On dit en italien, hai voluto la bicicletta, adesso pedala. En français, tu as voulu une bicyclette, alors pédale. Si en plus vous pouviez le faire en silence, ça m'arrangerait grandement. J'aime pas le vélo. Oui, je sais. Je ne suis pas très agréable et encore moins sympathique. Mais dans un monde partagé entre les bisounours et les haters, je choisis la seconde catégorie. Au moins, ça défoule. Cette chronique ne vous a pas fait sourire ? Eh ben tant pis. N'avait qu'à pas faire du vélo et le patron n'avait qu'à pas m'interpeller. Sinon, je répondrais comme ces gens qui, experts dans la manipulation des dialogues, d'abord vous cherchent, vous piquent, vous critiquent et quand vous réagissez, vous disent « Ah bah, te vexe pas, quoi !» Eh ouais, quoi que tu fasses, t'as tort. Allez, promis, je vais essayer d'être un peu plus conciliant. Il paraît qu'il faut faire preuve de patience en ces temps difficiles. Ce n'était que de l'humour. Restez bon de cœur et libre d'esprit. C'était Deluxe pour une chronique sur les vélos. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour se faire la pub? Mais en plus, je suis même pas payé. Ça rend tous des radins, ces cyclistes.
Je suis super content qu'on ait un humoriste, un gars qui fait du stand-up, qui participe à l'émission et qui nous apporte des chroniques comme ça. C'était Deluxe. Et on est toujours avec Guillaume, apiculteur à vélo, c'est pour ça que t'es là. Tu peux aussi transporter le miel, je crois que tu livres ton miel en vélo aussi, c'est ça ?
Ouais, exactement. J'ai regardé un petit peu l'empreinte environnementale de mon miel depuis le déplacement de l'apiculteur,
ouais.
En considérant aussi l'impact du pot en verre, de la fabrication de la ruche, etc., etc. Puis si tu regardes l'empreinte environnementale de toutes ces activités, ce qui domine, c'est la mobilité, c'est le transport.
Les déplacements. Ouais.
Voilà. Ce qui représente à peu près 50% de l'empreinte environnementale d'un apiculteur. Puis c'est pour ça que je me suis dit, ok, il faut trouver une solution. Hein, pas besoin d'innover, pas besoin d'avoir de la technologie. Eh ben, on troque sa voiture. Voiture que j'ai jamais eue, mais on prend un bon vélo. Et vélo, pas vélo. Hein.
Bon, ouais. Non, c'est l'accent français. C'est
j'espère
pas
que les Français comprendront.
Un vélo. Et puis, ça fait le job, ça se passe très bien. Et dans ma vie de tous les jours, j'utilise le vélo pour faire toutes mes activités.
Ça, on le dira jamais assez qu'on peut tout faire avec son vélo. Ouais. Et l'année dernière, tu as gagné un prix de la transition grâce à ton travail, en fait. Pourquoi tu as gagné ce prix-là ? Tu viens un peu de nous le dire, mais fais-nous un petit résumé.
Ouais, alors en résumé, je pense que l'apiculteur n'a pas forcément une grande valeur ajoutée quant à produire du miel, parce que ce n'est pas l'apiculteur qui produit du miel, c'est ses abeilles. Souvent, on me dit « Ah, salut Guillaume, t'es apiculteur, tu fais du miel ». Ben non, je ne fais pas du miel, c'est mes abeilles qui font le miel. Moi, je suis un simple admirateur. Ma valeur ajoutée, si je puis dire, c'est justement plutôt de transmettre, sensibiliser tout un chacun par rapport à l'environnement, par rapport aux abeilles, au job que font les abeilles. Et puis, au travers de notre association, donc l'association Mellifera, je fais un petit coup de pub, merci. Et ben, on a surtout ces activités de sensibilisation, de partage. Donc, on reçoit beaucoup de sortes de groupes aux ruchers. Et puis, on a des membres qu'on livre à vélo, juste chez eux. Et puis, une fois par année, ben, on les invite au rucher. L'objectif, c'est de dire, ben voilà, le miel, c'est quand même aussi un produit local. On va vers notre client ou vers notre membre à vélo. Le but étant aussi d'avoir un contact social, créer un lien social. Et ce même client, eh ben, un peu plus tard dans l'année, il vient nous rencontrer pour qu'on lui présente un petit peu comment est-ce qu'on travaille au rucher.
Alors, je t'avoue qu'on ne devait pas faire une émission sur les abeilles aujourd'hui. Ouais. Et je m'en excuse auprès des auditeurs parce qu'on avait annoncé qu'on ferait un truc sur les vélos de seconde main. Mais le gars qui devait faire l'émission avec nous, il a chopé le Covid. Du coup, on a changé de sujet. Alors, je me suis dépêché de faire des recherches sur Internet pour savoir quel lien il y avait entre vélo et abeilles, et j'ai trouvé plein de choses sur le web. J'ai trouvé notamment qu'il y avait beaucoup de photos où les abeilles aiment beaucoup le vélo. Beaucoup de photos où il y a des abeilles qui ont fait leur nid sur des vélos. Pas forcément des vélos abandonnés. Hein. Des fois, c'est des vélos qui sont attachés en pleine ville comme ça. Les abeilles ont mis leur nid sous la selle, sur le guidon, etc. Ouais. Et ils sont obligés de faire intervenir les pompiers, etc. pour enlever les abeilles. C'est certainement essaims. Des abeilles ouais. sauvages, ouais. Ah. des essaims.
Ouais, non, c'est pas des abeilles sauvages. C'est vraiment des vraies abeilles qui produisent du miel. Okay. En Suisse, on a à peu près 600 espèces d'abeilles. Et il n'y en a qu'une seule qui fait du miel. Hein. Et souvent, ben, on pense que ben, voilà, les abeilles, c'est seulement celles qui vivent dans les ruches, quoi, dans les petites boîtes. Là. Mais en fait, il y a tout plein d'espèces d'abeilles 600. Souvent, on se préoccupe surtout de celles qui font du miel, mais il faut aussi penser aux autres ouais. qui sont tout aussi importantes et qui font un sacré job. Peut-être qu'il y a aussi un lien assez fort, je trouve. Ben, voilà, les abeilles, tout ce qu'elles font finalement, c'est sans énergie fossile. Hein. Elles se déplacent avec du sucre qu'elles vont récolter dans les fleurs. Elles font aussi des pots qui sont des alvéoles, ouais. qui sont créés avec de la cire. Donc de nouveau, une matière première qui est renouvelable. Ma volonté, c'était aussi de dire, ben, voilà, les abeilles utilisent une énergie renouvelable. Et ben, l'apiculteur aussi doit aussi un petit peu mettre la main à la pâte et puis faire aussi un job...
Renouvelable.
Ouais. Ouais. S'occuper des abeilles, tout le monde dit ouais, c'est bien pour l'environnement, soit. Mais je pense aussi, l'apiculteur doit aussi se poser certaines questions sur justement comment est-ce qu'il pratique l'apiculture.
Alors en faisant des recherches encore sur le web, je suis tombé sur une marque qui fait des sonnettes qui ressemblent à des abeilles. Moi je sais que j'en ai déjà vu des sonnettes qui ressemblent à ça.
Okay.
Et je me suis demandé si c'était pas en lien avec le mot anglais horn. Qui veut dire c'est le klaxon en anglais et si on dit hornet, ça s'écrit pareil sauf qu'il y a et à la fin, c'est le frelon.
Du coup
j'ai vu des sonnettes en métal ou en plastique qui ressemblaient à des abeilles quoi, qui sont designées comme ça. Et puis alors je vous dis pas le nombre incalculable de jeux de mots en anglais avec bicyclette, parce que B-E-E, donc c'est abeille en anglais, donc bicyclette. Il y a même je crois que c'est autour de Paris une association de vélos qui s'appelle l'abeille machin truc. Enfin, y a plein de choses. Et en allant un peu plus loin avec ce mot bicyclette, eh ben, je suis tombé sur A bicyclette. Et c'est un couple qui est parti, qui a pédalé depuis Gap en Savoie jusqu'en Asie, juste au fin fond de l'est de l'Asie, à la recherche des apiculteurs, des différentes techniques pour faire le miel, etc. Pendant 6 mois, ils ont voyagé à vélo et j'ai interviewé Tom et on l'écoute tout de suite. Salut Tom, comment ça va?
Ben, ça va bien, Eric, et toi?
Eh ben, heureux, épanoui, tout va bien. Alors, explique-nous un peu ton fabuleux voyage avec Olivia.
On est bien parti de Gap, à vélo, et on est arrivé au Japon. On a dû voler un petit peu à un moment parce qu'on s'est retrouvé bloqué en Mongolie parce que entre la puissance russe et la puissance chinoise dans laquelle on pouvait plus rentrer, la Mongolie, il n'y a qu'une seule manière de s'en sortir, c'est de voler. Donc, on a dû prendre un avion depuis Ulaanbaatar jusqu'à Tokyo.
Qu'est-ce que vous avez découvert et appris sur le monde des abeilles, du miel et des apiculteurs?
On avait très envie de rencontrer une apicultrice qui s'appelle Madame Selenge et qui était un petit peu la gourou de l'apiculture en Mongolie. Donc c'était un peu ça la dynamique motrice du voyage initialement. Et après, en fait, on s'est dit que pendant tout le voyage, justement, qui allait mener en Mongolie et ensuite en Chine, parce que c'était dans l'idée, c'était de traverser le continent eurasiatique, même si on n'y est pas arrivé, on allait rencontrer des apiculteurs un peu sans trop d'organisation. On avait quelques points clés. Quand on voyait une ruche, on s'arrêtait et puis on essayait de voir si l'apiculteur était dans le coin. Et puis on discutait avec lui, on essayait d'échanger.
Mais du coup, vous êtes resté dans une partie du monde où le climat, il est assez... disons, c'est le monde où il ne fait pas hyper chaud. Il n'y avait pas de climat tropical ou équatorial, quoi.
On va dire qu'on a quand même rencontré énormément de diversité en termes de techniques d'apiculture et d'approche de l'apiculture. Après... On était tout le temps sous des climats qui ressemblent au climat français, et donc avec des fleurs et des écosystèmes qui sont très semblables, et donc des miels qui sont identiques. Enfin, pareil, les abeilles travaillent de la même manière, qu'elles soient françaises ou russes. Après, les états d'esprit des apiculteurs sont différents, hormis, par exemple, au Japon, où là, justement, c'était vraiment différent, parce qu'on est sur un climat beaucoup plus... tropical, en tout cas beaucoup plus humide, et où il y avait une espèce d'abeille endémique qui était vraiment différente de celle qu'on pouvait connaître en France.
Qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce qui t'a surtout, moi, tu vois, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce qui t'a surpris, quoi?
Par exemple, on a rencontré une personne au zoo de Vienne, Ron, qui était un apiculteur du zoo de Vienne, qui nous a invités. En Slovénie, on a rencontré énormément de personnes parce que la Slovénie est quand même un pays très tourné vers l'apiculture. Ils ont une espèce d'abeille endémique qui s'appelle la Carnica, qui est une abeille vraiment très particulière où quasiment on peut y aller sans protection. Elle pique quasiment pas. Du coup, c'est très agréable de travailler avec. On est en t-shirt et en short dans un rucher de 50 ruches avec des milliers d'abeilles autour. C'était assez impressionnant. En Pologne, on a rencontré une personne qui nous a présenté un petit peu sa pratique de l'apiculture dite naturelle. Alors, il creuse des cavités dans des troncs à des endroits avec des énergies et tout ça, enfin, selon lui, et qui perdure en fait une vieille technique biélorusse de l'apiculture naturelle avec aucun apport, aucun nourrissement, enfin voilà, pas du tout une vision productiviste de l'apiculture. Après, en Mongolie, justement, on a eu énormément de chance. On a eu la chance de voir cette Madame Selengue, qui est un peu la pionnière de l'apiculture en Mongolie, qui a quand même l'apiculture en Mongolie est quand même une apiculture particulière parce que on va dire que la floraison est très courte et l'hiver il fait moins 40. Du coup, ils hivernent les abeilles en cave. Ils rentrent les abeilles l'hiver pendant les périodes froides dans une cave et ils les nourrissent comme ça.
Et si on veut en apprendre plus sur votre voyage, Tom, t'as un site web ?
C'est abicyclette.com avec un petit jeu de mots sur le abicyclette, A-B-E-E cyclette, qui retrace un petit peu toute notre aventure avec des vidéos, des articles par pays, les rencontres principales et
voilà. Et ben merci beaucoup, Tom. À bientôt.
À bientôt, Eric, et merci d'avoir été.
Il me donne toujours envie de voyager, moi, les cyclo-voyageurs. Vivement que ça se termine, là, le confinement et toutes ces conneries-là, qu'on puisse retrouver des cyclo-voyageurs dans l'émission qui nous parlent de leur périple presque en direct, comme on faisait avant avec Okan.
Puis organiser nous-mêmes aussi nos voyages.
Mais je pense que le Covid, justement, ça motive à faire plus de sorties à vélo.
Ah, je pense, ouais. Ah ouais, ouais.
Oui,
ça a permis, ça, justement, de faire des sorties. Ouais.
Kika, le vélo et l'art. Tu nous as préparé une super chronique sur les artistes qui prennent des vieux vélos qui sont plus en état et qui les transforment en œuvres d'art.
Voilà. Alors, super chronique, je sais pas, mais j'ai fait de mon mieux. Acheter seconde main, c'est faire un geste pour la planète. Donc nous, les vélos seconde main, on dit oui. Même un grand oui. Chez moi, on a 4 vélos et les 4, ils ont été achetés à des particuliers ou à des ateliers de réparation. Et on en est tous super contents. Je sais pas si vous aussi, vous êtes plutôt adepte du vélo seconde main.
Ouais, moi aussi. C'est immortel de toute façon un vélo, donc autant acheter un seconde main.
Quasiment. Quasiment immortel, parce qu'il arrive quand même parfois qu'un vélo soit vraiment trop dépassé ou trop difficile à réparer. Comme la fois par exemple où j'ai retrouvé mon vélo plié en deux.
Ah, super.
Alors, je sais pas si quelqu'un a mis des gros coups de pied dedans ou si une voiture a reculé dessus jusqu'à la plier en deux. Mais donc voilà, ce vélo-là, typiquement, il était irréparable.
Donc, il pouvait servir d'œuvre d'art.
Donc, exactement, il aurait pu finir en œuvre d'art. Et parce que justement, il y a plusieurs personnes qui se sont posées cette question, mais que faire des vélos qui sont cassés ou tous les vélos qui finissent à la benne, même s'ils peuvent être récupérés, il y en a quand même malheureusement plein qui finissent à la benne. Et ils ont trouvé cette réponse, l'art. C'est le cas par exemple de Drew Evans. Ce métallurgiste américain a décidé de redonner vie aux chaînes, pignons et plateaux de bicyclette en créant de très belles sculptures. Grâce à la structure de la chaîne, Drew Evans a la possibilité de créer de multiples géométries pour donner forme à des arbres, des animaux ou encore des corps humains. Ses œuvres valent vraiment le détour et son buste de femme a un je ne sais quoi de l'artiste Giger. Vous connaissez ?
Oh oui, c'est celui qui a fait Alien.
Exactement, c'est lui qui a fait les créatures d'Alien.
C'est toujours des trucs très horribles qui font peur en fait.
Oui, alors là, elle a un côté très métallique comme ça, enfin ce buste de femme très... Ça ressemble un peu à du Giger, mais c'est pas effrayant.
Ouais, on dirait de la biotech.
Ouais, du biomécanique. Ouais. Cet homme, en plus d'être un artiste, a aussi un atelier de réparation de vélo. Et pour promouvoir la réparation en dépit du changement, il a décidé de fixer ses tarifs à la moitié du prix proposé par les grands magasins. Je vous invite vivement à faire un tour sur son site internet chainbreakerwelding.com. J'espère l'avoir prononcé de manière...
Chainbreakerwelding.com. J'aime bien le faire à l'américaine.
C'est pas mal. On dirait un peu un lancement de film. Ouais. Ou alors sur son compte Instagram. J'ai réussi à le dire pour une fois. Donc Drew Evans pour le plaisir de vos yeux. Et si cet Américain n'utilise qu'une partie des vélos pour créer son art, Ramiro Sobral, un Espagnol domicilié à Barcelone, a lui ouvert une boutique où 90% d'un vélo est recyclé pour créer des objets de tous les jours. On peut trouver des lampes, des chaises, des bancs et tout autre objet utile fabriqué à partir de pièces de vélo usagées. Pour lui, l'art, ce n'est pas juste une question de beauté et d'éthique, mais aussi la fabrication d'objets usuels. Il dit « Il y en a beaucoup qui pourraient être des sculptures, mais j'aime leur donner une fonction ». Qu'il te plaise, c'est bien, mais si en plus il a une utilité, c'est encore mieux. Pour vous donner quelques exemples de ses créations, il a construit une lampe avec une roue usagée suspendue par des chaînes de vélo. Ou encore un tabouret avec la selle comme assise, la tige de selle comme rehausseur et le guidon comme support au sol. Une fois encore, un vrai plaisir pour les yeux, mais avec l'utilité en plus. Dans un genre purement artistique, mais aux dimensions plus grandioses, les deux artistes Marc Grieve et Ilana Spector se sont associés pour concevoir des œuvres réalisées à partir de vélos usagés et de parties de vélo. Ils ont soudé toutes ces pièces ensemble et ont conçu, par exemple, une obélisque de type égyptien constituée de près de 340 vélos usagés et dont la hauteur atteint presque 20 mètres.
Ah non, de là.
C'est assez impressionnant. On peut le voir à Santa Rosa en Californie. Ça fait un peu loin, mais si vous allez sur Internet, vous le trouverez également. Une autre de leurs œuvres est celle qu'ils ont appelée « The Bike Arch », comme l'arche, mais rien à voir avec Noé. Parce que malgré mon amour pour le vélo, si un jour il y a déluge, je ne prends pas mon vélo.
Ça marche plus de pédalo. Ouais.
Quoique, je suis sûre qu'en étant un peu bricoleur, on pourrait réussir à l'adapter. Mais non, c'est une arche qui a été conçue pour servir d'entrée à une aire de parking à vélo. C'est sympa comme idée, non ?
Ah, sympa, ouais.
C'est un immense parking à vélo aux États-Unis et en fait, ils ont créé cette arche constituée de plusieurs vélos assemblés ensemble pour faire une entrée.
Je t'avoue que j'ai hâte d'aller voir les photos, en fait.
Oui, je te les transmettrai pour qu'on puisse les mettre sur la vidéo YouTube.
Oui, ça sera mieux, ouais.
Et vous les aurez en live. Dans un autre style assez extrême, je voulais aussi aborder les créations du chinois Ai Weiwei.
Ouais, c'est ça, Ai Weiwei.
Weiwei. Car sa plus grande œuvre mesure 30 mètres de long. Sur 9 mètres de large et 9 mètres de haut. Autant dire que c'est une sacrée structure. Elle a été conçue avec pas moins de 3144 vélos. Et est composée de vélos sans selle et sans guidon, alignés les uns à côté des autres, dans différentes directions. Sa particularité est qu'elle est si grande que l'on peut même s'y balader et passer sous des genres de ponts de vélos. Il y a un seul bémol, c'est qu'en ayant regardé ses œuvres, j'ai l'impression que les vélos sont quand même tous en bien bon état pour être issus du recyclage.
Ah, il en a pris des en état, des neufs.
Donc, ouais.
Le filou.
Le filou, exactement. Donc là, j'ai des petits doutes. Par contre, le jour où on les démonte de leur structure, j'ai plein de super idées à qui tous ces vélos pourraient plaire. J'aurais bien encore de nombreux artistes à vous présenter parce qu'il en existe des tas et des tas et des tas. Que ce soit de réels artistes ou des passionnés, mais je commence à avoir la gorge qui se dessèche parce que je parle un peu trop. Et je vais aussi vous laisser un peu de place, mais j'ai encore une dernière petite chose à vous dire que j'ai particulièrement appréciée. C'est un fabricant de vélos domicilié à Chicago et il est plutôt investi dans toutes les activités cyclistes. Et il a décidé de créer un concours et il offre en fait à tous les artistes qui souhaitent y participer une boîte avec 100 pièces de vélos diverses, de vélos recyclés. À partir de là, les artistes doivent créer des œuvres d'art. Et le résultat est quand même assez surprenant parce qu'il y a 60 artistes qui ont participé en 2012 et on a 60 œuvres différentes avec un fond de pensée différent et c'est vraiment très très beau. Alors ils utilisent aussi d'autres pièces métalliques issues du recyclage également, particulièrement des pièces de vélo et c'est vraiment splendide. On peut voir par exemple des formes géométriques, il y a un cœur en 3D qui est très très beau, des animaux, des robots, des têtes, il y a même un masque à gaz.
Un Dark Vador.
Exactement. Tout ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a plein de façons de recycler les vélos, que ce soit pour en faire de l'art, des choses énormes, des choses petites, des choses utiles. On peut tous le faire. Donc si vous avez un vieux vélo que vous aimiez particulièrement, parce qu'on aime nos vélos, et ben vous pouvez toujours lui redonner vie. Et pour ça, vous avez qu'à aller sur Internet et vous trouverez des milliers d'idées pour recycler vos vélos et faire un peu de bricolage. Passer un après-midi confinement à faire des choses chouettes. Donc, amis cyclistes, à vos chalumeaux.
Aussi, les vieilles chambres à air, tu peux les réutiliser pour... moi, j'ai deux, trois arbres fruitiers chez moi. Et puis, le tronc, il
penche.
Il penche toujours. Donc, tu vois, ça fait un peu élastique. Ouais. Tac, tu récupères ta chambre à air.
Ah oui, tu rassembles les branches un peu.
Voilà.
Ouais. Ah ouais, c'est pas bête.
Pas les branches, hein, le tronc. Ouais, pour le redresser avec un piquet. Tac, hop.
Ouais.
Et puis, j'ai aussi un... Je savais pas que vous parliez justement de recyclage, mais... Le décapsuleur avec le plateau, le gros plateau.
Ah, t'as fait un décapsuleur avec une partie du plateau.
On l'a offert avec un petit bout de chaîne.
Oui, puis il est accroché avec la chaîne comme porte-clés, c'est génial.
Exactement, c'est génial. Il n'y a pas de limite avec le
ça c'est vrai.
Ben, on va terminer avec une dernière question pour toi, Guillaume, apiculteur. J'ai vu que tu avais une machine que les apiculteurs qui extraient le miel utilisent. C'est une centrifugeuse. Alors, je vais décrire pour ceux qui connaissent pas. Alors, on voit souvent des images d'un apiculteur qui rend visite à sa ruche, c'est-à-dire que il sort un cadre, on appelle ça un cadre de sa ruche. Il y a toutes les abeilles qui sont là-dedans en train de se promener. Et puis, il y a les alvéoles qui sont là-dessus. Puis ensuite, l'apiculteur, il remet le cadre à l'intérieur de la ruche. Il met tout ça à sa place. Le cadre, eh ben justement, c'est là-dedans qu'il y a le miel. Et les apiculteurs, pour sortir le miel, ils mettent ce cadre dans une centrifugeuse. On va dire que c'est une espèce de grosse cocotte minute, et puis ça tourne à toute vitesse et ça éjecte le miel contre les parois. Et ben Guillaume, il en a fait un truc avec son vélo.
Oui, alors c'est pas moi qui l'ai fait, quoi. J'ai été aidé par un petit marchand de cycles. J'ai dit, j'aimerais bien pouvoir pédaler, et puis en même temps, ça permettrait de faire tourner justement cette fameuse centrifugeuse dont tu parles, dont tu as parlé tout à l'heure.
C'est comme
une machine à laver en fait.
Ouais, c'est une grosse essoreuse à salade, quoi.
Voilà. c'est plus sexy que la machine à laver.
Ouais.
Et puis justement, donc en pédalant, ça fait actionner une tige qui fait tourner l'essoreuse à salade, et en même temps, tu te déplaces. Quand tu fais une pierre deux coups, donc tu te déplaces et en même temps tu extrais ton miel.
Ah, mais du coup tu peux faire ça tout en effectuant tes déplacements.
De temps en temps, ce qu'on fait, c'est que on va dans certaines écoles à vélo, et puis donc on extrait en même temps sur le trajet, mais on prend aussi des cadres en surplus, et puis à l'école avec les élèves, je les fais pédaler, et puis en même temps ils peuvent extraire leur miel, quoi.
C'est de la main d'œuvre bon marché, bien trouvé.
Parfait. Mais
je rigole.
Et puis il y a aussi l'aspect ludique, l'aspect aussi peut-être scolaire, parce que tu peux
leur
expliquer.
Tu chopes leur attention aux gamins.
Voilà, parce qu'ils s'attendent après pouvoir goûter le miel et tout ça. Tu peux leur expliquer un petit peu de physique.
Oui, et puis le fait qu'eux, ils aient pu aussi contribuer à ça, je pense que ça leur donne encore plus de magie dans les yeux. Et...
Exactement.
Ouais.
Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a la récompense à la fin où le miel est sorti, paf, la petite tartine. Et ils comprennent la physique bien mieux que quand tu leur apprends devant un tableau noir. Et puis voilà.
En leur mettant des énormes formules auxquelles ils ne comprennent rien.
Là, c'est du concret. Guillaume, si on veut te retrouver sur Internet, comment on fait?
Tu tapes association-mellifera.ch, tu me trouves.
Eh bien, merci.
Est-ce que je peux encore juste dire un mot?
Tout à fait, tu as le droit.
Alors, mangez du miel car il est bon.
C'est vrai, c'est son slogan, c'est écrit sur la caisse de son vélo.
Juste.
La semaine prochaine, on se retrouve avec une émission sur la Saint-Vélotin. Les cyclistes déclarent leur amour. Ça sera la troisième fois qu'on fait une émission sur Saint-Vélotin. Et enfin, on va vous dévoiler qui est Vélotin à l'origine, comment il est né, pourquoi il est devenu un saint. Saint-Vélotin. Allez, on vous aime les copains. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité,
faites du vélo.